Bonjour et merci d'être avec nous pour cette séance du cycle Contre-champ, lutte collective film féministe, organisée par la Cinémathèque du documentaire à la BPI. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore venus pour voir des films de ce cycle, juste vous dire que la programmation dure jusqu'au 4 juillet, donc vous avez le temps de revenir. Et l'idée de la programmation part d'une exploration d'un fonds de film, celui du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Et l'idée, c'était de partir des films de ce fonds, de les faire dialoguer avec des films extérieurs et de tisser comme ça des liens à la fois entre les générations, les pratiques artistiques et aussi par-delà les frontières, en essayant de retracer 50 ans de création, souvent collective et toujours féministe. Et aujourd'hui, c'est une séance toute particulière. On a le plaisir d'accueillir Marie Dauchet, qui est militante, photographe et chevaleresse des arts et des lettres. Le travail de Marie Dauchet nous est apparu très rapidement comme incontournable. Même si c'est de la photographie et pas du cinéma, ça participe aux pratiques documentaires. Et on l'a invité à la fois à nous parler de sa série photo qui a été éditée par La Déferlante en 2023 et L'Amour aussi, et partir de ce travail photographique qu'elle a mené avec la BNF, mais pour retracer plus largement, ou en tout cas ouvrir des pistes de réflexion sur une histoire encore peut-être pas vraiment suffisamment écrite de la photographie et des regards lesbiens et des corps lesbiens en photographie. Donc Marie, merci d'être avec nous. Et puis je te laisse très rapidement commencer car tu as beaucoup de choses à nous dire. Marie va présenter un peu le travail qu'elle a fait et ensuite il pourra y avoir un échange avec vous, donc restez après la présentation. Merci Marie.
Merci à Marion Bonneau de m'avoir invitée. Merci à celles qui sont là, malgré le fait qu'il y ait une marche lesbienne aujourd'hui. J'y aurais été si je n'avais pas été là. Donc merci pour cette invitation à évoquer le livre « Et l'amour aussi » que j'ai publié aux éditions La Déferlante fin 2023. Ce travail m'a poussée également à approfondir un sujet important à mes yeux, celui des représentations lesbiennes par des photographes lesbiennes. Je vous propose dans un premier temps de vous parler des conditions de production de « Et l'amour aussi », puis d'évoquer les mécanismes qui, encore aujourd'hui, invisibilisent les photographes et les artistes lesbiennes ou peuvent les empêcher d'exprimer leur vision du monde ou encore garder une partie de leur production secrète. L'invisibilité se conjugue avec le sentiment d'illégitimité et l'incapacité à agir, et nous aurons l'occasion d'en parler. Et puis nous parlerons de la force des représentations. Je suis un peu émue, hein ? Enfin, nous regarderons des photographies issues d'une recherche que je mène depuis 2021 et qui a fait récemment un bond en avant grâce à Laura Bernard, professeure d'art plastique dans un lycée de Rouen, que j'ai rencontré récemment et qui est ici. Il n'y a pas un chapitre 1, puis 2, puis 3 pour expliquer des questions d'invisibilisation. C'est une sorte de millefeuille difficilement lisible et compréhensible, même pour les personnes qui les vivent. Je vous avertis que vous n'échapperez pas à mes digressions tant le sujet est vaste, souvent insaisissable, fait de détails, d'anecdotes qui pourront vous paraître inutiles mais qui, une fois assemblées, auront, je l'espère, du sens. Je sais bien que mon désir de tout vous faire saisir en une heure est illusoire, mais c'est bien parce que j'ai senti au quotidien, enfant, le regard hostile de la société sur mon corps, ça va aller, c'est juste le début. Ma façon de bouger et ma réticence aux travaux dits féminins, que j'ai nourri l'idée qu'on pourrait changer le monde en une heure. Que nous dit-on au fond quand on nous traite de garçons manqués ? Toute histoire est située et je vais vous raconter une histoire d'un point de vue subjectif, le mien. Je suis une femme, j'ai 61 ans, je suis photographe professionnelle depuis 2001. J'ai été élevée en Auvergne, dans une famille socialement mixte, et j'ai fait des études supérieures, mais ni artistiques, ni journalistiques. Je vis à Paris depuis 1987, et je suis lesbienne, ce qui est important pour le sujet qui nous rassemble. Vous en savez donc assez pour savoir d'où je vous parle. Lors de cette rencontre, je vais utiliser le mot lesbienne pour parler des photographes que je vais vous présenter. Je le choisis, car je l'ai violemment rejeté de mon vocabulaire jusqu'à un dimanche matin de 2013. des dizaines de bus de tourisme se garaient place de la Nation à Paris, prêts à déverser dans une manifestation géante des centaines de milliers de personnes opposées au mariage pour toutes et tous. Ce mot, que je n'avais jamais prononcé pour moi-même, que je détestais, a jailli de ma bouche. Lesbienne. Je suis lesbienne et je vous emmerde. Ce mot est devenu l'allié de mon émancipation à 50 ans, enfin. L'intime est politique. Je le vivais profondément dans mon corps et ma vie a basculé, comme celle de beaucoup d'autres à cette époque. Ce moment politique est le point d'ancrage du livre « Et l'amour aussi ». Je voulais savoir comment nous allions depuis 10 ans, depuis cette déferlante d'homophobie, depuis l'acquisition de nouveaux droits. C'est la première question que j'ai posée à chaque participante de ce projet avant de faire les portraits. Où étais-tu il y a 10 ans? Nous n'avons pas accès à notre histoire au point que nous pensons ne pas en avoir. Et c'était le seul événement historique qui nous concernait et que nous avions vécu de près ou de loin. La seconde question était, comment te nommes-tu? Quels mots utilises-tu pour te dire? Se dire. Se dire lesbienne, gwyn, queer, ne pas se dire. C'est un vaste questionnement quand on est dans ces marges, invisibles. Lesbienne est devenue pour moi un ancrage politique, et non plus ce sale mot honteux charrié par des pages et des pages de fantasmes pornographiques masculins sur Internet. Oui, jusqu'en octobre 2019, Google associait le mot lesbienne à du contenu pornographique et nous devions faire face à ça, avant de pouvoir trouver une information sur notre santé, un lieu de convivialité ou des livres. Faire cette recherche sur les photographes aurait été, je crois, quasi impossible, tant les écrans étaient saturés de pornographie, créant donc, mécaniquement, de l'invisibilité. Fanchon Maillodon-Courtel, spécialiste du monde de la tech, lesbienne, a forcé Google à intervenir sur ses algorithmes et nous lui devons beaucoup. Et comme nous parlons de visibilité, je vous montre une photo d'elle. La dernière question que je leur posais avant de faire leur portrait était « Avec quelle représentation t'es-tu construite ?» Nous en avons eu tellement peu que ce vide nous a construites. Construites par le vide, construites par des bricolages, de multiples négociations avec des bribes de films, de romans et une montagne d'hétérosexualité très souvent problématique. Moi, la première fois que j'ai vu deux femmes s'embrasser au cinéma, c'était Suzanne Sarandon et Catherine Deneuve dans un film de vampires, Les Prédateurs. Je ne m'y attendais pas du tout. Je devais avoir près de 25 ans. Je ne sais même plus où et comment je l'ai vu, mais je peux immédiatement convoquer la peur moite que j'ai ressentie à l'idée qu'on pourrait voir mon immense trouble et donc être démasquée. Oui, démasquée. L'injonction à l'hétérosexualité nous force à porter longtemps des masques mortifères et croyez-moi, c'est loin d'être fini malgré des avancées. Je le sais parce que depuis 2022, je parle avec un nombre important de jeunes femmes qui, encore, bataillent avec ce qu'elles sont. Et vous ? Si vous êtes hétérosexuel, vous aviez quel âge quand vous avez vu un homme et une femme s'embrasser au cinéma, dans la rue ou dans une publicité? Certainement pas 25 ans. Si on pose la question avec « Quelle représentation t'es-tu construit à un homme, même gay ?», son choix est large et divers grâce à la profusion des grands hommes, acteurs, politiques, chercheurs, sportifs auxquels il a accès dès l'enfance. Dès les livres scolaires, et il y a fort à parier que cette profusion nourrisse chez lui un sentiment de légitimité. J'assistais en 2013 dans une salle de l'Assemblée nationale à une table ronde sur les représentations stéréotypées dans les livres scolaires. C'était passionnant. On prenait conscience de l'absence de représentation du clitoris dans les livres de SVT, de l'omniprésence de corps masculins blancs et musclés pour décrire notre système respiratoire, et à la quasi-absence de femmes dans les livres d'histoire. Un rédacteur de livres d'histoire géo posait crânement alors la question à l'historienne Catherine Kokrividrovitch. Et quel grand homme devrais-je supprimer pour quelle grande femme? Il prit une leçon savoureuse, mais au-delà de ça, nous voyons ici à l'œuvre des mécanismes de l'invisibilisation. Le conservatisme, le conformisme, la répétition confiante et aveugle de l'effacement simple et efficace de plus de la moitié de l'humanité dans l'histoire. J'ai passé les 10 dernières années de ma vie à montrer les mécanismes qui invisibilisent les femmes photographes, en prenant, la première année, une identité d'homme. Vincent David, pour être certaine d'être lue. Ça a été très efficace et certainement une des expériences sociales les plus intéressantes de ma vie. J'ai compris ce qu'était le respect. Tout le monde trouvait ce Vincent David si juste, si intelligent, si cultivé, alors que ce que je disais moi, Marie Daucher, était nourri des pires biais de l'hystérie féministe. Je peux vous dire que j'ai commencé à bien comprendre la fabrique de l'illégitimité, de l'invisibilisation, du discrédit. Comment avait été fabriqué chez moi ce doute permanent sur ma légitimité à créer, à parler, à me représenter. Je vais vous parler de deux femmes qui ont contribué à changer le cours de l'histoire de l'art et le cours de nombreuses vies. Camille Morino, historienne de l'art et commissaire à Pompidou de l'exposition Elle à Centre Pompidou, dit très bien un des obstacles à la monstration du travail des femmes, hors bien sûr le manque de volonté des institutions. C'est l'absence d'informations passant par les circuits traditionnels des galeries et marchands et donc la nécessité de faire un effort considérable pour exposer des artistes femmes. En 2010, quand je visite cette exposition, j'ouvre alors les yeux sur le problème de la sous-représentation des femmes dans l'art, mais je comprends surtout qu'elles existent. Et grâce à Camille, je vais progressivement m'autoriser à devenir enfin artiste. Puissance des représentations. 5 ans plus tard, Marie Robert, chef du département photo et cinéma au musée d'Orsay, partage cette même expérience pour l'exposition « Qui a peur des femmes photographes ?». Le jour du vernissage, en octobre 2015, je traverse les salles de l'exposition avec une émotion nouvelle. J'ouvre les yeux grands sur l'histoire des femmes photographes et me sens progressivement devenir légitime, inscrite dans une histoire à 55 ans. J'ai compté. En 2019, les livres d'histoire de l'art et de la photo évoquaient à peine 15% de femmes et souvent aucune. Depuis, ça a changé grâce aux féministes, grâce à Camille, Marie, Fabienne Dumont, Abigail Solomon-Gaudeau, Catherine Gonard, Elisabeth Lebovici et bien d'autres. Se sentir légitime. C'est un des grands sujets des femmes, un handicap majeur façonné par des sociétés misogynes. Alors que dire des lesbiennes? Je reviens à « Et l'amour aussi ». Fin 2021, le ministère de la Culture a confié à la BNF la gestion d'une grande commande pour les photojournalistes afin de soutenir une profession mise à mal. Les 200 photographes sélectionnés ont eu 9 mois pour travailler sur le sujet de leur choix afin de réaliser une radioscopie de la France. J'ai proposé d'aller à la rencontre des lesbiennes, 10 ans après le vote de la loi sur le mariage, et j'ai été sélectionnée. Il faut au préalable que je vous précise qu'ayant peur de mal représenter, peur de me tromper, je n'étais pas portraitiste, je me censurais, autre source d'invisibilisation. J'ai pris confiance et je pense avoir vécu en 2022 une des plus belles années de ma vie. Je pouvais enfin construire ces représentations qui nous manquaient et réparer celles qui nous abîmaient. Quelle ambition folle, n'est-ce pas? C'était peut-être l'effet Vincent David. Tous les portraits du livre et l'amour aussi ont été réalisés à l'endroit où chaque participante le souhaitait, comme elle le voulait, dans les conditions qu'elle désirait. Je vous raconte. Nous nous faisons face. Nos regards disent que nous sommes en lien, à égalité, que nous nous connectons à nos histoires d'invisibles, à nos sorties du placard, à ces moments de joie folle où nos sentiments ont pris corps sous les mains d'une autre et où nous sommes devenus nous-mêmes enfin. On a tellement peu l'occasion d'en parler que c'est un peu émouvant en fait. Et dans cette façon de faire photo, de faire portrait, de faire face, nous savons qu'avec nous, à ce moment, il y a une autre lesbienne qui regardera un jour cette image et qui respirera, se sentira reconnue et la montrera à une autre lesbienne et lui dira « Regarde ». On a tellement manqué de ces images. Nous savons que d'autres personnes qui ne sont pas lesbiennes plongeront leur regard dans cette image et comprendront que cette frontalité ouvre d'autres espaces mentaux, d'autres réalités. Nous sommes dans un moment, une photo en triangle, et dans ce déclic, il y a nos histoires, à nous qui sommes en train de faire l'image, et déjà à vous qui regarderez cette image. Nous savons parfaitement notre responsabilité. Dans l'histoire de la photographie, la vision du photographe, souvent un homme, est très valorisée, survalorisée même à mon avis. Sa subjectivité passe au-dessus du sujet, du spectateur, il le domine et en fait le sujet de son talent. C'est son regard qui va être admiré. Quel grand photographe. Ici, nous sommes intimement égales et c'est sans doute ce qui donne à cette série de portraits réalisés sans protocole cette sensation de joie, de révolution, de soulagement, de justesse dont me parlent les lectrices et lecteurs de toute génération et certains médias. Et nous comprenons bien alors comment les musées, ces lieux de valorisation de la figure de l'artiste, nous ignorent, du moins en France. C'est avec seulement deux références de photographes lesbiennes documentant leur environnement que je me suis sentie légitime à postuler, me sentant virtuellement épaulée, soutenue par la sud-africaine Zanele Muholi et l'états-unienne John E. Byron, dite Jeb. Sans elles, je suis certaine que je n'aurais jamais fait ce chemin. Force des représentations. Et puis est arrivé ce qui n'arrive que dans les rêves. Une éditrice m'appelle et me dit « Je veux faire ce livre. Il est important et nous le ferons comme tu veux. » C'est Lucie Geffroy, une des quatre fondatrices de la toute jeune maison d'édition adossée au magazine La Déferlante qui le veut, ce livre. Elle vit les enjeux de la visibilité et va mettre en place une équipe de rêve, me proposer un contrat sérieux. Nous sommes tout de suite en accord sur ce que doit être ce livre et elle va le faire, parfaitement. Nous voulons un objet accessible, physiquement d'abord, qu'il soit facile à lire, à emmener avec soi, à mettre dans un sac. Un livre accessible financièrement pour toucher un large public, qu'on puisse le trouver dans tout type de librairie. Un livre où le soin apporté au texte, au témoignage, sera aussi important que celui aux photographies. Et L'amour aussi est sorti le 30 octobre 2023. Il a été imprimé à 6000 exemplaires en France, mis en librairie au prix de 25 euros. Et 6 mois plus tard, plus de la moitié des exemplaires ont été vendus. Pour qui connaît l'édition photo, c'est une performance, une brèche. Je vous invite à faire une petite pause et à regarder la présentation du livre que j'ai mis en vidéo en 2 minutes. Merci. En vue une Gwyn comme présidente est un poème de Zoé Léonard, mais on voudrait une Gwyn présidente de gauche plutôt. Enfin, perso, je préférerais, parce que des Gwyn, il y en a dans tous les partis politiques. Donc, pour candidater... Il a fallu me dire lesbienne aux membres d'un jury, leur dire pourquoi je connaissais ce sujet et comment j'allais m'y prendre. Beaucoup de photographes savent le coût de le dire publiquement et se taisent. Moi, ça faisait 10 ans que je militais pour la visibilité des femmes photographes, que ma carrière était donc largement foutue et que j'allais avoir 59 ans. Donc foutue pour foutue, dire que je suis lesbienne ne risquait plus de me nuire. Mais ça montre pourquoi nous sommes au fond très peu à pouvoir tenir cette position. Une lectrice publiée sur Facebook... La nécessité de ce livre paraît a posteriori si évidente qu'on se demande comment il se fait que rien de semblable n'avait déjà été publié. Vous commencez à comprendre pourquoi. En 2012, je suis allée à la galerie du Jeu de Paume voir l'exposition sur la photographe Bérénice Abbott. Me reste le souvenir lumineux de photos illustrant la gravitation ou les principes ondulatoires de la lumière. Je retiens également des cadrages urbains époustouflants, mais rien... Rien ne m'a permis de penser qu'elle avait constitué des archives visuelles fondamentales pour les artistes et activistes lesbiennes de la génération suivante, comme par exemple la plasticienne états-unienne T.A. Corinne. En préparant notre rencontre d'aujourd'hui, j'ai retrouvé le dossier de cette exposition et écrit à la commissaire Gaëlle Morel. Elle est curatrice au musée de The Image Center à Toronto, au Canada. Je trouve important de vous lire cet échange. Gaëlle à Marie. La description parle de la communauté bohème et artistique et des images jouant sur le flou en termes de genre et de binarité. C'était compliqué à aborder car Abbott ne souhaitait pas être reconnue publiquement en tant que lesbienne, car le fait d'être une femme lui avait déjà coûté cher. Le fait d'être lesbienne a eu un impact encore plus négatif sur sa vie professionnelle. Elle a été rejetée et méprisée par la communauté photo de l'époque, le MoMA et Walker Evans en tête qui la haïssaient. Pour la faire court, elle n'était pas baisable, comme Lee Miller ou Margaret Bourke-White. À l'époque où j'ai fait l'expo, celui qui possédait toutes les archives d'Abbott, Ron Kurtz, était très réticent à aborder la question plus frontalement. Il avait très bien connu Abbott, se prétendait le gardien du temple et sa mémoire, et surtout, l'expo ne pouvait pas se monter sans lui. J'ai poussé aussi loin que possible, et le Jeu de Paume, dirigé à l'époque par Martha Gilly, m'a toujours soutenue. L'exposition a été une série de compromis avec Kurtz, celui-là en était un de taille. Si on était attentif, il y avait quelques indices clairs. J'avais ajouté dans l'expo une très belle lettre d'André Calmette qui a vendu les tirages d'Adjet à Abbott. Il lui parle tendrement de son couple. Il appelle Elisabeth McCausland, votre chère amie Elisabeth, je crois. En tout cas, c'est bouleversant. Aujourd'hui, toutes les archives sont dans le musée pour lequel je travaille. Si nous devions refaire une exposition, nous aborderions les portraits très différemment. Le langage, les descriptions... On repense tout avec des chercheurs, les communautés, etc. Queering the archive, queeriser les archives, c'est un long chemin, mais on avance. Marie à Gaëlle. C'est passionnant. Tu sais qu'il se passe pratiquement la même chose avec la propriétaire du château de Rosa Bonheur. C'est une vaste entreprise d'hétérosexualisation de la peintre. Elle la présente comme une vestale de la peinture, donc sans sexualité. Elle a mis une pression folle pour les rétrospectives de Bordeaux et Orsay, car elle a énormément d'archives dans le château. C'est une sale et sombre histoire. Est-ce que je peux te citer ? Ça éclaire beaucoup les mécanismes d'invisibilisation et pourquoi les artistes ont souvent dissimulé elles-mêmes leur identité. Gaëlle Amari. Oui, bien sûr, c'était en 2007. À l'époque, tout ça était encore très timide. Ron Kurtz pensait que le stigma lesbien pouvait nuire à la réputation d'Abbott et du coup à la sienne, parce qu'il vendait des tirages modernes. Toujours les dollars. Et il y avait un vieux fond conservateur accentué par son âge, son genre et son origine sociale. Un vieux mâle blanc. Mais je crois sincèrement que Bérénice elle-même refusait d'en parler publiquement pour les mêmes raisons. J'ai eu d'autres témoignages dans ce sens. C'est triste, mais ce qui me donne un peu de joie, c'est que je crois que leur histoire, à Abbott et Elisabeth, a été une très longue et belle histoire. La baisabilité. Le mot de Gaëlle est frontal, cru. Nous le disons tout un jour. Ce sont les expériences que nous, femmes artistes, vivons. Ces mêmes récits qui ont surgi lors du MeToo cinéma, puis dans tous les secteurs de la société, à l'exception notable de la photographie. La réception de nos travaux artistiques ou documentaires sont encore souvent liées à notre niveau de baisabilité. Les lesbiennes, si elles sont identifiées comme telles, devraient logiquement, presque mécaniquement, être en dehors de ce système de prédation destiné, entre autres, à maintenir le pouvoir de représentation aux mains d'hommes dominants. Mais en y échappant, elles sont éjectées également de l'accès à ces mêmes institutions qui les ignorent et elles demeurent de toute façon dans la classe sociale des femmes, notamment en termes de revenus. Si elles affichent des attributs féminins, c'est pris comme un signe de disponibilité par les hommes, et si ce sont des attributs masculins, comme un signe d'inadéquation à notre classe d'origine. Nous sommes donc inextricablement liés à la norme dominante, hétérosexuelle et masculine à laquelle participent des femmes que j'appelle des cariatides. Donc, à moins de performer une forme de sexualité lesbienne conforme aux attentes du marché, et donc falsifiée, il est tentant, voire raisonnable, de se fondre dans la norme par peur de voir son travail rejeté, terni, laissé dans les marges et de ne plus avoir de revenus. Il n'y a absolument aucun avantage à se dire lesbienne pour sa carrière, même si on photographie uniquement des usines ou des paysages. Alors il faut se cacher, taire ce qu'on est dans un monde où pourtant le rapport entre l'œuvre et l'artiste est si valorisé, si puissant, si revendiqué en France depuis le romantisme où le génie masculin doit exprimer son intériorité, voire ses pires fantasmes. Mais voilà que ce génie panique devant un petit dièse, un hashtag, et veut dissocier son œuvre de sa personnalité. En parlant du travail que j'étais en train de faire, une photographe m'a dit qu'elle ne voulait pas passer pour la lesbienne de service en 2022. C'est dire la chape de plomb qui nous recouvre encore, qui semble trop lourde à assumer, qui devient notre habitat naturel. Cette invisibilisation que les lesbiennes, photographes inclus, s'imposent, est intrinsèquement liée à la pression hétérosexuelle. Si vous prenez le temps de lire les récits de vie des femmes qui ont participé au livre « Et l'amour aussi », vous verrez qu'ils traduisent une grande complexité de construction de l'identité dont la difficulté est liée à l'invisibilité lesbienne, contrairement aux gays. Les hommes gays sont confrontés à l'insulte, à la répression, aux représentations négatives de l'homosexualité masculine. Pour nous, tout se passe comme si l'homosexualité des femmes n'existait pas et traduit un biais dans la société. Une jouissance indépendante du masculin est impensable, donc non représentée ou caricaturée, dévalorisée, invisibilisée dans ses multiples réalités. Je vais vous donner des exemples récents, issus du monde des arts, pour comprendre que ces mécanismes d'invisibilisation sont toujours bien à l'œuvre. Je bois un petit coup. J'ai plein de choses à dire, c'est pour ça. Nous l'avons vu avec Gaëlle Morel, l'invisibilisation par les ayants droit est souvent imparable. J'ai photographié l'installation d'une plaque commémorative dans le 18e arrondissement de la capitale pour un couple de résistantes déportées, Suzanne Le Clézio et Yvonne Ziegler, une peintre. Le Conseil de Paris avait délibéré sur le texte de la plaque, le choix avait été fait d'utiliser le terme « compagne » pour qualifier la relation entre les femmes. Pourtant, lorsque la plaque est dévoilée le 8 mars 2022, le texte a été modifié. À la place de compagne se trouvaient désormais les mots « amis bénévoles », à la demande des membres de la famille, d'une des amantes, « invisibilisation de nos amours, de ce que nous sommes ». Je reviens à Rosa Bonheur et à l'entreprise menée par la propriétaire du château. Elle m'a dit de vive voix, début 2021, avoir demandé l'écriture d'une biographie à une spécialiste à qui elle donnait un accès illimité aux archives de Rosa. Cette biographie est sortie sous forme de roman en 2022. Il est vendu sur toutes les plateformes et en librairie, avec une quatrième de couverture hallucinante, qui commence par la pire scène hétéro du cinéma hollywoodien, archétype de la culture du viol, je cite. Rosa s'empourpre, s'étrangle, voudrait le gifler. Lanzer, passionné mais prudent, s'empare de ses mains et les porte contre son cœur. Une lionne dans un corps d'oiseau, murmure-t-il. Vestale de l'art, égérie du féminisme et prise de liberté et d'idéal, Rosa Bonheur s'imposa comme la plus célèbre artiste animalière du XIXe siècle. Elle connut une carrière fulgurante et vécut un amour fou avec Sir Edwin Lanzer, qui nous est pour la première fois révélé. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, elle a vécu toute sa vie avec des femmes, a rédigé son testament en faveur d'Inda Klumke, sa dernière amie, et elles sont enterrées dans le même caveau que Nathalie Mikas, avec qui Rosa a vécu jusqu'au décès de cette dernière. Comment qualifier ça? Je ne sais pas. Et que dire du titre et des choix iconographiques sur cet autre roman intitulé « Rosa Bonheur, l'audacieuse ». Elle est mince, rêveuse, à l'orée d'une forêt, féminine, ses cheveux bien ajustés, les bras ballants, et vêtue d'une robe romantique. Rosa vivait au milieu d'une ménagerie d'animaux sauvages, allait dessiner en pantalon dans des abattoirs et faisait des toiles de 3 mètres de large. Ce sont tout de même de belles falsifications, non ? La danseuse, film de Stéphanie Di Giusto, est sorti en France en salle en septembre 2016. La danseuse, c'est Louis Fuller, connu pour avoir révolutionné la danse moderne et qui a eu une longue relation amoureuse avec Gabrielle Bloch, sa plus proche collaboratrice. Dans ce film, entièrement tourné avec ce que Laura Mulvey nomme le male gaze, on ne voit que quelques regards qui traduiraient des sentiments vaguement honteux entre Louis et Gabrielle, ainsi qu'une brève aventure assez humiliante avec Isadora Duncan. Une grande partie du film tourne autour d'une autre relation amoureuse, hétérosexuelle. La réalisatrice écrit « Louis Fuller était homosexuel et il était important pour moi de ne pas en faire le sujet du film. J'ai également pris la liberté d'inventer le personnage de Louis d'Orsay qu'interprète Gaspard Ulliel. J'avais besoin d'une présence masculine dans ce film peuplé de femmes. » Lors d'une projection débat à Lille, elle renchérit. L'idée n'était pas de refaire la vie d'Adèle. Et l'actrice Soko, se disant queer, précise « On n'allait pas faire un énième film lesbien ». Alors, je ne m'étendrai pas sur l'industrie pseudo-florissante du film lesbien, ni sur le film La vie d'Adèle, qui en dit plus sur les fantasmes sexuels de Kechiche que sur les réalités de nos amours. Mais ce que je veux dire, c'est que faire passer Louis Fuller pour ce qu'elle n'est pas, en plus avec de l'argent public, c'est une falsification qui nous prive, comme la précédente, de représentation, d'histoire, et ça a des conséquences. Si Catherine, Stéphanie, Patricia, Ron et bien d'autres pensent que la sexualité des artistes ne nous regarde pas, ces personnes mènent quand même beaucoup d'énergie et mobilisent bien des mensonges pour la cacher et la dénaturer, cette fameuse sexualité. Vous commencez à comprendre pourquoi il est nécessaire et en quoi nous sommes plus que légitimes à produire nos propres représentations. Je vous donne un dernier exemple d'invisibilisation. Le magazine Photo Fisheye me contacte récemment. Nous nous connaissons, ils savent mon avis critique sur leur façon de sexualiser régulièrement les corps minoritaires. Ils me disent qu'ils vont publier un numéro consacré au mois des fiertés, en juin, et m'offrent une carte blanche sous forme de 2 à 3 feuillets de texte à 70 euros l'unité. Je remercie, en précisant que ça tombe très bien, car avec mes amis Ingrid Millot et Chloé Devie, nous venons de publier le portrait de presse au prisme des dominations, dans lequel nous analysons assez largement les représentations gays et lesbiennes. Je demande combien de mes photos ils comptent publier. Aucune, même pas la couverture du livre. Je demande donc quels portfolios vont être publiés tout en lançant des paris avec des amis. Et j'aurais dû parier cher, bien plus cher qu'un dossier mal payé. Je suis la photographe qui, je crois, sans forfanterie, a publié un livre qui semble s'imposer dans un tel dossier. Eh bien non. Alors, comme je n'attends rien d'eux, je ne suis pas blessée, mais 50 lesbiennes qui prennent courageusement la parole et se représentent seront absentes de ce dossier. Retour à l'invisibilisation. Je n'ai pas écrit cette carte blanche qui aurait constitué le vernis politique dont ils ont besoin. C'est un autre système d'invisibilisation. Ces exemples, je les connais pour les avoir vécus de près, mais il y en a tant au quotidien. Mettre simplement de côté les dossiers de photographes femmes ou lesbiennes sans les regarder, ça arrive régulièrement dans les festivals et institutions. Et ça, c'est bien la pire des censures, silencieuse, presque invisible et souvent inconsciente. Mais il y a souvent une femme dans ces endroits de décision qui nous en informe. Et voici la troisième partie de cette présentation, les photographes lesbiennes. Qu'a-t-on besoin de savoir au fond si elles le sont ou pas ? Est-ce que ça ne relève pas de la vie privée qui ne nous regarde pas ? M'a demandé récemment une prof dans un lycée. Je crois que vous commencez à avoir une idée. Ce que les lesbiennes, photographes ou artistes apportent à la société, enfin je crois, c'est un regard qui connaît bien la culture hétéro et qui s'est déplacé. Ce que des lesbiennes vont produire comme représentation à travers les époques éclaire les normes de genre en les transgressant, par exemple, et elles portent souvent un regard de minoritaire invisible sur les minorités visibles. D'autres, comme Zanelli Muholi, se disent avant tout activistes, et elle est exposée dans toutes les grandes institutions muséales à travers le monde, mais c'est très rare. Alors, c'est le moment, là, où j'avais pensé vous montrer des photos et vous parler de la vie de leurs autrices. Mais j'ai découvert dimanche dernier un article en anglais qui m'a pris du temps à traduire et qui m'a profondément émue. Jeb, dont j'ai parlé, John E. Byron, avait organisé ses archives de recherche personnelle pour en faire une histoire des images lesbiennes qu'elle nommait le Dyke Show. Dyke, ça signifie Gwyn en français. Elle l'a présenté à des publics exclusivement féminins au moins 80 fois dans plus de 60 lieux de 1979 à 1985. Elle avait organisé ses diapositives en deux carousels. C'est T. Corinne, dont j'ai déjà parlé, qui lui avait dit qu'elle vendrait mieux son livre ainsi, mais c'est immédiatement devenu une histoire et une théorie de la photographie lesbienne dans laquelle les photographies de Jeb n'étaient pas le point culminant, mais une partie. J'ai été sidérée de lire cet article qui relate son intervention en 1980 à la Society for Photographic Education, très importante société états-unienne où se décidait la photo contemporaine. Les femmes qui ont participé à cette réunion parlent de ce sentiment de légèreté éprouvé en écoutant Jeb et en regardant les images. Elles disent qu'elles en avaient besoin pour respirer tant elles étaient étouffées par l'atmosphère pesante de ce boys club qui leur expliquait comment photographier. Elles parlent d'un événement intellectuel décisif. Je vous lis quelques passages que j'ai traduits. Quoi qu'il en soit, Jeb n'a pas défini une image lesbienne uniquement en fonction de la sexualité exprimée par les photographes. Le Dyke Show s'est plutôt attaché à identifier les modèles lesbiens dans une section que Jeb appelle « the look, the stance, the clothes », le regard, la posture, les vêtements. Il est important de noter que ce regard ne se pose pas seulement entre les modèles féminins, mais aussi entre la photographe et son sujet. « The look » est tes yeux dans les yeux, comme l'indique le titre du livre de Jeb. Il ne décrit pas seulement un regard direct entre deux femmes physiquement proches, la photographe et son sujet. The look relie également le sujet de la photographie et son spectateur. La libraire lesbienne Carol C.J., dans une des premières critiques de The Dyke Show, expliquait ainsi The look. Chacun des sujets regarde directement l'appareil photo. Chaque portrait regarde directement dans les yeux du spectateur. La photographe fait partie de l'image, elle est là. Ses portraits n'ont rien de timide ni d'autodépréciatif, c'est même le contraire. Vous imaginez alors mon émotion, alors que je n'ai pas eu connaissance de ce travail, de me retrouver à penser et mettre en œuvre cette même démarche. Ça n'a rien d'essentialiste. Il n'y a pas un gène de la photographe lesbienne, et d'ailleurs nous ne travaillons pas toutes ainsi, loin de là. Mais il y a fort à penser que l'expérience de la marge et le refus de l'invisibilité qui mène à l'impuissance nous ont amenés à développer une relation au monde singulière. En cela, je crois que cette position de photographe donne un éclairage particulier sur la norme et Jeb devrait être enseigné prioritairement dans les écoles de photo et photojournalisme. Avec Laura Bernard, nous avons assemblé nos données, échangé, recherché ensemble. Comment s'y prendre pour identifier les photographes que nous allons vous montrer ? Il y a celles que nous avons identifiées depuis longtemps, celles que nous cherchons sur Internet en fouillant dans les parties académiques des moteurs de recherche, les partenariats avec des archives universitaires ou d'institutions photographiques comme la SPI, pratiquement toutes rédigées en anglais. Certains centres de recherche en Amérique du Nord fournissent des informations parcellaires, mais la plupart du temps, ce sont les travaux d'artistes que nous repérons en activant notre guédar, mot composé de gué et radar. Et puis, nous trouvons parfois un document de réunion lesbienne à laquelle elles ont participé. Il peut également arriver, par le portrait d'une personnalité connue, que l'on suive des pistes, comme avec les photos de Alice Austin, travaillant sur un manuel de cyclisme pour les femmes au XIXe siècle. Il est parfois difficile de savoir si des autoportraits ont été faits dans le cadre d'expérimentations personnelles et intimes, comme les Norvégiennes Bolette Berg et Mary Hug, ou dans un but politique et destiné à être diffusé, comme Zanelli Muholi, ou les autoportraits de Jess Dungan, documentant sa transition en posant aux côtés de sa mère. Comment classer les autoportraits de Deborah Bright, qui prend sa place à coups de ciseaux dans le cinéma hollywoodien ? quand nous voyons les incroyables reportages en terre lesbienne de l'Oregon par Ruth Mountain Grove ou les portraits de Gone Boorman, d'autres imaginaires s'ouvrent, mais nous trouvons peu d'informations. Très peu. Et que dire sur la si intime, si publique, si politique série de Annie Leibovitz photographiant la fin de vie de sa compagne Susan Sontag. Il a fallu faire un choix pour les montrer. Nous sommes partis de l'intime, d'autoportraits et portraits qu'elles ont réalisés de leurs amantes et dont nous ne savons pas quel était le contexte, mais qui sont accessibles publiquement. Puis nous sommes allés progressivement vers l'extime, vers des photos qui documentent des communautés, des vies lesbiennes. Avant de vous les montrer, je veux dire ici que les institutions qui ont des archives photos doivent les revoir, les queeriser, les repenser avec ces questions parce que l'invisibilité, je vous l'ai démontré, nous fait perdre du temps, nous abîme et qu'il est très riche de comprendre dans quel état d'esprit ont été produites ces photos. Ça ne concerne pas que les lesbiennes, ça concerne la société entière. Nous qui cherchons, trouvons, n'avons pas de titre universitaire et sommes dans ces marges, avons besoin d'argent pour continuer. Aux États-Unis, il existe des lieux, des musées portant le nom de photographes lesbiennes avec des expositions, des bourses de résidence et des bourses de recherche. Par exemple, en France, le centre d'archives lesbiennes a un budget de 10 000 euros par an. On va où avec ça? Il y a des collections entières de photos en train de se détériorer dans des cartons à quelques mètres d'ici. Il y a une histoire incroyable à écrire, à montrer, car les lesbiennes sont noires, blanches, handicapées, riches, pauvres, jeunes, vieilles. Elles font de la politique, elles écrivent, elles soignent, elles sont scientifiques, elles sont théoriciennes, mécaniciennes. Elles enseignent, elles élèvent des enfants, elles dirigent des musées, elles sont invisibles et à l'intersection de toutes les discriminations. Ça aurait de la gueule, non? Je vais vous laisser regarder ce diaporama sans mots, sans musique, pour ne rien déranger de cette expérience. Il dure 13 minutes, le Dyke Show durait 2 heures. Comme ce moment est enregistré sans vidéo pour des questions de droit à l'image, je vais seulement citer par ordre chronologique les photographes présentés. Pour de nombreuses raisons qui ne dépendent pas de nous, elles sont principalement sur les continents nord-américains et européens. Hier, j'ai écrit à toutes celles qui sont encore vivantes pour leur dire que j'étais là et elles m'ont tout écrit. La première est née le 15 janvier 1864 en Virginie. Elle s'appelle Frances Benjamin Johnston. Puis il y a Alice Austin, Bolette Berg, Mary Hugh, Marcel Moore, Claude Cahun, Florence Henry, Berenice Abbott, Veronica Slevité, Marianne Breslauer, Anne Nogle, Ruth Mountain Grove, Gone Boorman, Judy Dater, T. Corinne, John Byron, Donna Gottschalk, Annie Leibovitz, Deborah Bright, Roman Manfredi, Cathy Pellan, Cathy Niles, Jill Posner, Laura Aguilar, Tessa Boffin, Nicole Mikkel, Catherine Hopi, Phyllis Christopher, Marie Dauché, Chloé Sherman, Micheline Thomas, Zanelli Muholi, Émilie Jouvet, Meg Allen, Jess Dungan, Susie Bright et Dinah Roos. Merci de votre attention, on se retrouve après.
Merci beaucoup Marie. Et s'il y a des questions dans la salle, je vais vous passer tout de suite, presque tout de suite la parole. Je pense que j'étais très impatiente d'entendre Marie parler. J'ai oublié de vous avertir et peut-être que certaines et certains ont déjà vu, mais il y avait une projection prévue à 18h du film de Zanelli Muholi et Peter Goldschmidt, Difficult Love. Et malheureusement, elle est annulée pour des questions de droit. Mais donc, voilà, je ne sais pas si vous aviez prévu de rester à 18h. En tout cas, heureusement, Zanelli Muholi et son travail étaient un peu présentes avec nous dans la conversation avec Marie. Et on a pu voir certaines photos. Et est-ce que quelqu'un a déjà une question à poser? Sinon, je peux déjà un peu lancer... Oui. Alors Laura Bernard, qui a été citée par Marie et qui a beaucoup aidé Marie dans ses recherches.
Non, c'est un travail formidable. Tout le texte et les images, c'est super. Bon, bravo.
J'aurais jamais fait ça sans toi. Enfin si, mais moins bien.
Et après, moi, je me demandais, quand tu as commencé ton travail de série photo pour Et l'amour aussi, Est-ce que tu avais déjà toutes ces références ou c'est des références qui sont venues après ?
Non, moi, mes deux seules références, c'était Zanelli Muholi, que j'avais vu pour la première fois en 2012 à Arles, dans une exposition collective. J'avais même rencontré brièvement. Et puis après, je l'avais revu à Paris, mais c'était ça. Et puis après, j'avais découvert le livre de Jeb, à qui j'ai pu parler d'ailleurs quand j'ai commencé le livre. Mais je n'avais jamais pensé que je ferais une série sur les lesbiennes un jour. Hein. C'est vraiment de voir l'appel à candidature du ministère de la Culture. Et quand à un moment, j'ai vu qu'on ferait le travail, enfin, au moins pour les 100 premiers photographes en 2022, je me suis dit, mais 2022, c'était il y a 10 ans, en fait, ce moment qui avait été quand même plus que pénible, hein, mais qui en même temps a été un grand changement pour beaucoup d'entre nous. Et donc je me suis dit, ben voilà, c'est temps. Et puis il me manquait plein de choses. Anne Pauly, qui a écrit l'introduction, le dit, elle, je ne sais pas quel âge elle a, enfin, elle est plus jeune que moi, mais elle dit, j'aurais aimé avoir ce livre pour mener ma vie de Gwyn, quoi. J'aurais perdu moins de temps. On n'avait pas de référence. Mais c'est vraiment l'appel à candidature qui m'a motivée. Sinon, j'étais pas portraitiste. Hein, voilà.
Et moi, ce que j'apprécie aussi beaucoup dans ton travail, c'est qu'on a donc les photos, mais il y a aussi énormément de place laissée au témoignage, à la parole. Est-ce que tu avais pensé directement à cette association entre le texte et les images, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu après comme une nécessité, ou c'est au moment de l'édition où tu t'es dit que tu pouvais...
Non, j'ai pensé en même temps. Parce qu'on dit des fois une photo ça vaut 1000 mots, mais c'est pas vrai pour les minoritaires. Nous on nous entend jamais. Donc il fallait parler, puis il fallait que les textes soient bien traités. C'est Diane Milelli qui a retravaillé les textes, parce que moi j'ai tout retranscrit, ça faisait énormément de textes, avec beaucoup de répétitions, etc. Elle a très très bien réédité les textes et validé avec chacune, parce que c'est pas facile après de voir son témoignage écrit et que ça va être publié. Enfin, je voudrais que vous applaudissiez bien fort les 50 femmes qui ont participé à ce projet quand même, qui ont du courage. Et en particulier, c'est qu'ils se retrouvent sur le mur de leur chambre bleue, en couverture et partout. Non, c'est du courage d'avoir fait ça. Moi, je ne suis pas certaine d'y avoir participé, si on me l'avait demandé. Enfin, il y a 10 ans, en tout cas.
Et est-ce que, j'imagine qu'il n'y a pas eu une seule façon de faire, mais comment tu es entrer en contact avec les 50 personnes qui ont participé à l'ouvrage, est-ce que justement tu t'es heurté à beaucoup de refus, comment ça s'est passé?
Non, en fait j'ai essayé, il y avait des lesbiennes que je voulais absolument photographier qui sont des militantes, qui font avancer les solidarités, l'histoire, les droits, donc ça c'était très important parce qu'on dit toujours les choses bougent, mais enfin il faut les faire bouger, hein. ça bouge pas tout seul avec ses petites jambes, hein. Donc là je voulais qu'elles soient là, c'était important. Et puis après j'ai lancé des pistes mais assez loin de moi-même, sociologiquement, géographiquement, parce que sinon ça fait longtemps que je vis à Paris, donc ça a un peu déteint sur moi et ça aurait fait un peu un entre-soi et c'était pas le but. C'est pour ça qu'il y a une grande diversité d'âge, de région, d'origine sociale, de métier, c'est très varié. Et il faut savoir que le temps de travail c'était 9 mois. Donc il a fallu beaucoup faire plus que la commande en fait pour pouvoir faire ce livre. Mais les textes s'imposaient et j'ai pas eu tant de refus que ça. Y en a qui comprenaient bien l'enjeu mais qui osaient pas ou voilà. Mais sinon ce livre a été porté à partir du moment où j'ai su que j'allais le faire, ça a été un moment de grâce jusqu'à la fin. C'est-à-dire que tout a été facile. Alors, ça demande beaucoup de travail, mais ça a été fluide, ça a été facile, ça a été joyeux. Je pense qu'on était toutes très conscientes de ce qu'on était en train de faire.
Et il y a quelque chose que je trouve très beau aussi dans l'ouvrage, c'est que pour chaque personne que tu rencontres, il y a aussi une mise en situation de comment vous avez décidé ensemble de prendre les photos. Et là, tu évoquais dans ta présentation cette espèce de triangle qui se crée entre la personne qui photographie, les personnes qui sont photographiées et les personnes qui seront amenées à voir les photos. Est-ce que ça, c'était déjà quelque chose que tu avais dans ta pratique de d'expliquer comment, dans quel cadre les photos sont prises, ou bien c'était spécifiquement pour cette série que ça t'est apparu comme évident?
Mais non, parce que moi, comme je l'ai dit, je ne faisais pas de portrait, ou alors à la marge, parce que j'avais peur de mal représenter, comme beaucoup de lesbiennes, j'ai été mal représentée, donc je craignais de mal faire. Mais j'ai passé 3 ans, les 3 dernières années, à travailler avec Chloé Devie et Ingrid Millot, qui sont là, sur les portraits de presse. On a brassé des portraits pendant 3 ans, et on a surtout vu les pratiques qui sont enseignées, les pratiques qui sont mises en œuvre, et ça me convenait pas du tout. Et en fait, quand j'ai décidé de me lancer, ben j'avais juste à inventer, en fait, et j'avais pas à revoir des pratiques. J'avais juste à me dire, ben voilà, je vais faire comme ça parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Et j'ai été très très troublée de lire dimanche, après avoir, j'avais tout écrit, de lire ce que disait Jeb. Et c'est troublant parce que si on avait eu une transmission, si Jeb était enseigné dans les écoles de photo, on n'en serait pas là, quoi. On aurait déjà bien avancé sur les représentations. On aurait gagné près de 50 ans, en fait. 40 ans, allez. Et c'est pas rien, c'est parce qu'il n'y a pas cette transmission. Moi, quand je fais cette recherche, quand je rencontre Laura, pour moi, ça m'éclate parce que je n'avais personne avec qui en parler. Et là, d'un coup, je trouve quelqu'un qui a une base de données de dingue, pas que les lesbiennes, hein, d'ailleurs, mais aussi les femmes artistes. Et d'un coup, c'est une joie profonde, en fait, de pouvoir échanger, parce qu'il n'y a pas de livre, il n'y a rien. D'ailleurs, je pense que je vais lui laisser le micro pour savoir pourquoi elle fait ça.
Moi, je crois savoir, mais...
Vas-y.
Moi, je suis prof d'art plastique. Donc, la question de l'invisibilisation des artistes femmes, elle me préoccupe beaucoup. J'essaye de faire moitié-moitié. En termes de référence pour les élèves. C'est très compliqué, parce qu'effectivement, comme l'a dit Linda Nochlin il y a longtemps, pourquoi il n'y a pas eu de grandes artistes femmes? En fait, il y a plusieurs explications. Il n'y en a pas eu parce qu'elles ne pouvaient pas l'être. Hein. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu un président ou une présidente noire en France, par exemple? Jusqu'alors, ce n'était pas possible. Et puis aussi parce qu'il y en a eu, en fait, il y en a eu beaucoup plus que ce qu'on pense, mais elles ont été complètement oubliées par l'histoire qui est faite par des hommes. Et donc, en fait, il faut aller creuser. Et en fait, en cherchant des artistes femmes, notamment des peintres et des plasticiennes, assez vite, j'ai découvert qu'il y avait des représentations en photographie qui m'interpellaient. C'est le fameux gay d'art, hein, dont parle Marie. Hein. C'est sûr, je pense que si je n'avais pas été lesbienne, je ne les aurais pas vues comme je les vois, parce que je sens. Alors des fois, je me trompe, hein, des fois, je creuse une piste et puis je me dis, ah ben non, merde, ça ne marche pas, elle n'est pas lesbienne. Mais quand même, souvent... je ne me trompe pas. Et alors, ce qui est intéressant avec la photo, mais ça, c'est un autre débat, mais c'est intéressant aussi parce que ça marche avec toutes les nouvelles technologies, c'est que la photo, dès les débuts, dès le 19e, hein, il y a des femmes, il faut un peu de moyens, mais il y a des femmes qui s'emparent de la photo parce qu'en fait, elles ne sont pas écrasées par le poids de la domination masculine, c'est-à-dire que ce sont des nouvelles images et tout est possible. Et on le voit à l'heure actuelle avec Internet, par exemple, dès le début du numérique, des artistes femmes s'en sont emparées. Donc à chaque nouvelle technologie, il y a un espace qui est ouvert pour les femmes et pour toutes les minorités. C'est ce qui est valable pour les femmes et les lesbiennes est valable pour toutes les minorités. Et donc elles s'en emparent. Donc pour moi, ça a été une manne de creuser ça du côté des femmes et du côté des représentations lesbiennes. Et enfin, pour finir, dire aussi que toutes les photographes que vous a montré Marie, en fait, on aurait pu les classer autrement parce que là, on les montre à part, mais c'était un peu le débat qu'il y avait au moment de Elle, Pompidou, mais elles s'inscrivent aussi dans une histoire de l'art globale, et certaines d'entre elles ont des recherches de témoignages, comme c'est le cas pour les femmes dans l'Oregon, par exemple, mais certaines ont une vraie démarche plasticienne et d'artiste et mériteraient amplement d'être dans les livres de photographie desquels elles sont complètement exclues, c'est-à-dire il faudrait refaire une histoire de l'art et de la photographie en incluant toutes ces artistes et toutes celles qu'on n'a pas encore redécouvert parce qu'elles sont dans des cartons, elles sont au fond des réserves ou elles-mêmes n'étaient même pas au courant que ce qu'elles étaient en train de faire était quelque chose qui relevait de la démarche artistique.
C'est le cas de champ et contre-champ. Hein. Elles se sont emparées de la vidéo aussi, bien avant que les hommes trouvent ça intéressant. Donc c'est dans ces marges en fait qu'on va trouver. Il y a des artistes qu'on a montrés. Bérénice Abbott est une femme très très connue, hein, de la photographie. Mais cette invisibilisation dont nous parle Gaëlle Morel, elle l'explique très très bien en fait tous ces mécanismes qu'on s'impose à nous-mêmes et que l'institution impose. J'étais avec des conservatrices de la BNF il y a pas longtemps. Quand je leur ai dit ça, elles m'ont dit Bérénice Abbott était lesbienne. Et puis, ben voilà. Ouais. Et là, d'un coup, elles m'ont regardé en disant ah ouais, et là, ça va les lancer sur autre chose. C'est quand on dit il faut revoir les archives, parce que ça a un sens, en fait. Et si ça n'avait pas de sens d'être lesbienne, la norme ne passerait pas autant de temps à nous effacer, en fait.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que parmi les photographes que vous avez vus, il y en a certaines qui ont vécu de la photographie. Par exemple, Benjamin Johnson, c'est la première, celle qui a avec sa jupe et sa chope de bière. Les deux Norvégiennes, Bolette et Hug, vous savez, dont une se travestit beaucoup en garçon. Bon, par exemple, elles, mais il y en a d'autres, hein, ont vécu de leur photographie, c'est-à-dire elles avaient un studio photographique, elles étaient reporters photographes, et elles vivaient et elles photographiaient les personnalités en vue. À côté de ça, elles ont une production privée qui n'était pas destinée à être montrée et qui nous intéresse. C'est bien évidemment pas ce qui les a fait vivre qui va nous intéresser, mais ce qu'elles n'ont pas montré. Mais par exemple, Claude Cahun, c'est pareil. Claude Cahun, on la connaît par ses photos. Or, elle avait l'ambition d'être écrivaine et pas du tout photographe. Donc, ces photos ont été redécouvertes il y a maintenant une trentaine d'années par un gars, hein, qui a révélé le potentiel artistique de ces photos qui étaient des photos qui relevaient du domaine privé. Donc, c'est aussi pour ça qu'on pense qu'il y a dans les greniers, chez les gens, chez nous peut-être, des photos qui demandent qu'à sortir et à être revues sous cet angle-là.
Oui, et puis on discutait il n'y a pas très longtemps, enfin c'était le dimanche dernier, et je te parlais d'un travail que j'ai fait, je t'ai dit ouais non mais bon, ça je vais pas le et tu me dis ben voilà, c'est exactement ce qui invisibilise les recherches, en fait, c'est de ne pas sentir légitime à montrer des photos. Et en fait, c'est des photos que j'ai montrées, après notre conversation j'ai pensé, les seules personnes à qui je les ai montrées pour avoir un avis, je les ai montrées à des hétéros, allez savoir pourquoi, et donc ils comprennent pas ce que je fais, je suis sûre quand je vais te les montrer mais voilà, c'est ça. Et si j'avais pas parlé avec Laura, je me serais pas dit tiens bon ben en fait parce que moi, je les trouve bien, ces photos, mais les autres m'ont dit non. Et en fait, si ça se trouve, elles sont bien. Et c'est fou, hein, comment on se censure, en fait.
Est-ce que vous avez des questions dans la salle ?
Du coup, pour cet ouvrage, c'est seulement 50 femmes. Est-ce qu'après la publication de l'ouvrage, de tous les retours, il y a eu l'envie de créer peut-être un second ouvrage ou de continuer cette recherche et enfin, de montrer plus d'autres portraits?
Du tout. Non, il n'y aura pas un tome 2 parce qu'en fait, je ne peux pas faire mieux.
Ouais.
Toutes les conditions étaient absolument parfaites pour faire ce livre. Et puis, mine de rien, ça fait depuis sa sortie que je suis en permanence invitée, alors aussi bien dans des collectifs vers Toulouse que ici, que au Festival du court-métrage de Clermont, dans des librairies. C'est un travail énorme et pendant ce temps-là, je montre pas les photos que je fais. Mmh. Donc j'aimerais redevenir photographe, mais non, ça serait du réchauffer. Après, ça ouvre les portes à plein d'autres gens pour travailler. Je suis persuadée de ça, mais c'est pas moi qui le ferai. En fait, c'était pas mon ambition de faire ça. Moi, je voulais juste être une bonne photographe et faire des petites photos de paysage. je plaisante qu'à moitié, en fait. Moi, je voulais juste être photographe et être heureuse. Donc, c'était ma seule ambition. Je suis photographe, c'est bien. Mais il faut que je le redevienne parce que je ne suis plus vraiment photographe, là.
Et depuis que tu as fait cet ouvrage, est-ce que tu es invitée dans les écoles de photographie à présenter ton travail ?
Oh non. Non. Les élèves veulent, mais c'est depuis longtemps, parce que moi j'ai beaucoup milité avant. Et puis vous allez voir peut-être tout à l'heure mon ami Pascal Obolo, avec qui d'ailleurs on a écrit un projet d'exposition sur les lesbiennes gays qu'on aimerait beaucoup voir exposer à Arles ou dans d'autres institutions. Et donc Pascal s'occupe de questions postcoloniales. Et elle et moi, on est très souvent sollicités par des élèves, hein, des écoles d'art, des écoles de photo, qui n'ont pas de réponse, qui ne trouvent pas de réponse, enfin, les sujets n'intéressent pas les profs. Il faut savoir que dans les écoles d'art et dans les écoles de photo, 90%, voire même plus, hein, des fois, des profs sont des hommes blancs qui ne veulent absolument pas changer. C'est ça le problème de l'art, c'est que les gens se pensent par défaut progressiste. Or, c'est complètement faux. Et donc, c'est difficile à faire bouger. Les écoles voudraient bouger. J'en ai beaucoup de témoignages, mais les profs refusent. Et donc, nous, on se retrouve à nourrir les élèves. On n'est pas payé pour ça. Donc, les écoles, non. Mais les librairies, certaines écoles d'art nous invitent. Mais c'est pareil, c'est précaire. Ils estiment des fois qu'ils n'ont pas à nous payer ou même pas un sandwich. Donc, non. Moi, je veux bien faire un service public, mais enfin, il y a des limites. Voilà. C'est un gros boulot d'aller... de prendre une journée complète, d'aller échanger, amener, parce que moi je prépare beaucoup les choses, donc ça demande beaucoup, et je ne peux pas faire ça pour 50 euros en fait, voilà, il faut que je paye mon loyer aussi.
Et toi Laura, justement en tant qu'enseignante, est-ce que c'est, par exemple parmi les artistes qu'on a vus là, est-ce que c'est des artistes que toi tu enseignes, que tu réussis à transmettre un peu
Oui, alors la démarche d'un prof d'art plastique n'est pas tout à fait la même, c'est-à-dire que oui, ça peut m'arriver de me servir d'une de ces images pour interroger une notion plastique ou une problématique. Après, moi, mon but, il est justement d'être à la fois militante et à la fois de rester dans le cadre institutionnel, donc je réagis en fonction de ce que je peux faire dans les programmes, mais ma volonté est de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, un enseignement où les références sont à parité entre les hommes et les femmes, et c'est très compliqué. On y arrive pour les artistes contemporains, là, il n'y a pas de souci. Le XXe siècle, on y arrive. En deçà du XXe siècle, il faut vraiment avoir une volonté chevillée au corps pour le faire. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a parlé de Zoé Léonard, celle qui a fait le poème qui commence par « Je veux une Gwynne comme présidente » qui a été placardée. Et ben, Zoé Léonard, dans une des documentas à Cassel, c'est-à-dire une grande manifestation d'art contemporain, au Musée des Beaux-Arts de Cassel, elle a remplacé tous les tableaux qui ne représentaient pas des femmes ou qui n'étaient pas faits par des femmes, autant dire 90% des tableaux, par des photos en gros plan de vulves, en noir et blanc. Ce qui avait déjà beaucoup... Et c'était il y a déjà longtemps, hein, donc c'est intéressant aussi de dire que voilà, cette photographe-là, qui est une activiste, hein, elle aussi, elle a posé cette question-là de l'invisibilisation des références des femmes. Et alors, c'est d'autant plus interpellant qu'on sait que, malgré la réforme des lycées qui vise à mixer un petit peu plus les choses, on sait très bien que les garçons vont dans les filières scientifiques et les filles dans les filières littéraires et artistiques, et que 95% de nos élèves sont des filles, et qu'on leur donne à voir 95% de référence masculine. Donc il y a vraiment des choses qu'il faut inverser en fait.
Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous connaissiez l'ouvrage de Marie? Est-ce que vous l'avez parcouru? Sinon, normalement, il est à la librairie du Centre Pompidou, mais je sais qu'il est parti assez rapidement, ils avaient recommandé. Et il y a aussi d'autres ouvrages, notamment celui que tu as présenté sur...
Oui, sur le portrait de presse au prisme des dominations, où on a étudié pendant plus de 3 ans à peu près 1000 portraits de la DER de Libération et de l'Invité de Télérama, qui sont des journaux qui se veulent progressistes et engagés sur les questions... féministe, etc., enfin normalement, et on s'est dit que si on voyait des choses qui clochaient, ils bougeraient plus facilement. Alors ça a été le cas pour Libération, mais j'avais fait une émission à Arrêt sur Image, c'est en ligne, c'est gratuitement, vous faites Arrêt sur Image, vous faites mon nom, et vous tomberez dessus, et c'est frappant quand on voit les images à quel point on se rend compte de ses propres biais, de la façon dont on voit le monde de façon biaisée. Et c'est un travail qu'on a sorti il y a très peu de temps et qui... moi, je pense que c'est une vraie révolution et que le texte central devrait être aussi enseigné dans les écoles de photos. On le voit bien dans les écoles de photos, les hommes sont majoritaires en enseignant et les intervenants aussi, ils s'invitent entre eux. Nous, on a beau demander à venir, les élèves ont beau leur dire « Ouais, faudrait inviter Pascal Bolo, faudrait inviter Marine Auchet ». Non, ils s'invitent entre eux et on le voit parce qu'ils s'en vantent sur les réseaux sociaux. Et il ne nous invite pas. Donc là, on est en train d'essayer, avec une grande idée de Ingrid Millot, d'essayer de faire changer les choses de façon militante. Mais c'est compliqué, en fait. Alors, on a l'impression, souvent, surtout quand on vit à Paris, de se dire, oui, non, mais les questions lesbiennes, ça vaut mieux. C'est facile, tout le monde est queer, etc. Mais ce n'est pas vrai, en fait. quand on va dans certaines banlieues, par exemple, je prends Versailles, je sais pas, soyez gay ou lesbienne, et ben bonjour chez vous, en fait. C'est compliqué encore, c'est très compliqué. C'est pas parce qu'il y a deux, trois chanteuses comme ça, ça reste quand même des questions compliquées dans les écoles, et les écoles d'art, c'est assez violent, justement, pour toutes les minorités. Enfin, si tant est que les femmes soient des minorités. Hein.
Mais nous bonjour.
Sommes traités comme une minorité. Ouais.
Merci beaucoup déjà pour votre présentation. Et moi, j'avais une question concernant la couverture. Je voulais savoir comment, en ayant la volonté de représenter des lesbiennes très différentes, très diverses, vous avez fait ce choix de mettre ce couple en couverture ?
Le choix de la couverture ? Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, mais enfin, je l'ai trouvé super. D'abord, c'est jaune, et j'adore le jaune. Et puis, le choix a été fait. Alors, on voulait un baiser, parce que vous savez qu'un baiser lesbien est une révolution. Donc, on voulait un baiser, et il n'y en avait pas 36, en fait, et qui puisse faire une couverture. Et donc, il s'est trouvé que c'était... C'était Sarah et Sophie qui se sont retrouvées en couverture. Je sais que ça n'a pas été complètement facile pour elles d'être en couverture, mais peut-être qu'un jour, elles en sont très fières. Elles en sont fières, j'en suis sûre. Non, mais c'est compliqué, hein. C'est très compliqué de se retrouver représentée comme ça, d'être visible. Passer d'une culture de l'invisibilité à la visibilité, c'est un passage compliqué. Moi, j'ai vu, par exemple, dans le traitement des textes, donc Diane a envoyé le texte à chacune, et il y en a qui voulaient enlever des choses. Et celles qui ont failli partir, c'est parce qu'elles disent « Ouais, non, non, mais ça ne va pas aller, en fait, si ma mère voit ça. » Ça en dit long, hein, quand même, hein, que ce n'est pas réglé, cette histoire, et des jeunes aussi. Hein. Donc ouais, mais cette couverture, je l'adore. On voit dans les librairies, elle est dynamique. Il y a des histoires très tristes dans ce, très difficiles bien sûr, mais il y a pas de pathos. C'est-à-dire que moi j'ai exposé ce travail à Clermont-Ferrand au mois de juin l'année dernière. Il y avait des, bon, tout le monde n'était pas exposé, c'était des grandes bâches de 1m50 et il y avait des témoignages au mur. Et c'était un festival, j'étais là les deux premiers jours, c'était aux trois premiers jours, où il y avait eu 2000 personnes qui sont venues, donc c'est quand même beaucoup. J'ai vu des gens de tout type, hein, en train de... très émus, en fait, de lire et d'être proches. La bâche, ils étaient proches, pratiquement, comme si on était devant. Et j'ai vu des gens très, très émus, en disant, mais jamais on n'avait entendu ces histoires. On n'imaginait même pas, quoi. Quand je vous dis, les lesbiennes sont invisibles, elles sont invisibles. J'ai même été sidérée que, pendant que je faisais ce travail, ben, j'en parlais, j'étais omnibulée partout. Ça prenait ma vie entière. Et donc, j'ai parlé à pas mal d'amis qui me disaient, mais tu sais, en fait, on se rend compte que tu es la seule lesbienne qu'on connaisse. Les gens connaissent des gays, mais les lesbiennes, ils disent, ah ouais, mais en fait, tu es la seule. C'est fou, alors qu'on se connaît depuis longtemps. Et il y en a plusieurs, hein, qui me l'ont dit. Et puis, en fait, tu leur dis, bah, regarde un peu autour de toi, tu vas voir. Et puis, voilà.
J'ai un petit témoignage et puis une question. Je suis là, Marie. Ce que tu disais tout à l'heure à propos de Versailles, ça me rappelle un souvenir personnel que je voudrais juste partager. Mais ça me le lendemain d'une grande manif en 2000, ça devait être en 2012 ou en 2013 pour le mariage pour tous. J'ai une amie qui s'est suicidée et qui était lesbienne et qui habitait à Versailles. Voilà. Et le fait que tu aies parlé de Versailles, ça m'a rappelé ce souvenir. On ne saura pas ce geste, ouais. mais elle le vivait plutôt très mal. J'avais une question, c'était par rapport à l'étranger. Est-ce qu'en Europe, tes travaux ou tes recherches ont pu faire des comparaisons ? Est-ce qu'on est tous logés à la même enseigne dans tous les pays ? Et j'ai un souvenir en visitant Berlin, à côté du mémorial de la Shoah, qui est à côté de la porte de Brandebourg, il y a un mémorial qui rappelle les déportations des homosexuels. Je ne sais pas si tu vois de quoi il s'agit. Ouais. Et il y a une petite boîte dans laquelle on rentre, et c'est une vidéo qui tourne en boucle, et ce sont deux femmes qui s'embrassent, et on peut faire le tour. On est à l'intérieur d'une boîte noire, et on fait le tour à l'intérieur, et on suit en fait ce couple de femmes qui s'embrassent. Et j'avais découvert ça en 2015 à Berlin, et dans un espace public ouvert, pas dégradé. Enfin, dans mon souvenir, il était. Et du coup, ça m'interpelle. Je me dis, est-ce que en Allemagne, dans l'espace public, c'est normal, ou est-ce que ailleurs, dans d'autres pays, en Europe, tu as pu le constater?
Je sais pas.
Non.
J'en sais rien.
Sur Berlin, oui, à Berlin, il y a même un musée qui s'appelle le Schfühles Museum, qui est le musée. Schfühles, ça veut dire gay, PD même, c'est même un peu péjoratif. Donc, je veux dire, il n'existe pas l'équivalent. À New York, il y a aussi un musée qui s'appelle Leslie Woman, qui est un musée LGBT et qui est estampillé LGBT. On n'a pas ça ici en France, par exemple. À Berlin, oui, Berlin, c'est une ville quand même très, très LGBT. C'est clair que. Mais il y a aussi, qui fait carrément face aux monuments homosexuels, le monument aux tziganes, c'est-à-dire une reconnaissance des minorités. À Berlin, avec un vrai devoir de mémoire, enfin un devoir de mémoire qui est peut-être encore plus ancré dans les nécessités du peuple allemand. Après, sur le reste, on se faisait la réflexion, on se disait, mais nous, ce qu'on trouve, on le trouve sur Internet, et puis quand on va voir des expos, mais c'est clair qu'on n'a pas accès à. Il y a les photographes sud-américaines, les photographes asiatiques, tout ça, on ne sait pas. Donc c'est pour ça, d'où la nécessité de transmettre encore ces choses-là et d'aller chercher, de lancer des étudiants et des étudiantes sur ces questions-là, d'aller creuser. C'est l'idée de Marie, c'est de dire, mais là, il faut qu'on secoue tout, il faut faire sortir toute cette histoire-là.
Par exemple, en France, alors, quand tu parles de Berlin, par exemple, Pascal Obolo, qui est commissaire d'expo, elle est brillante. Enfin, franchement, ce qu'elle fait, c'est génial. Elle n'entre jamais dans une grande institution par l'institution. C'est toujours parce qu'on la fait rentrer. Voilà. Et par contre, à Berlin, elle est invitée, c'est tranquille. Enfin, voilà, toutes ces questions à Berlin. Mais je pense que Berlin, c'est quand même un îlot. Moi, je suis intervenue, on m'a invitée plusieurs fois en Belgique, par exemple. Là, je vais être invitée en Suisse. Il y a un gros besoin, visiblement, aussi. Mais c'est vrai que moi, j'ai fait des recherches en mettant plusieurs mots-clés avec Asie. Enfin, vraiment, en allant chercher... Et c'est difficile de trouver. Alors après, il y a des zones où quand même on se fait tuer hein, quand on est lesbienne donc, ou gay. Donc on ne va peut-être pas mettre qu'on est photographe lesbienne sur Internet. Hein. Mais c'est, oui, il y a un travail. Et alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu pendant de très nombreuses années, alors moi je ne l'ai jamais lu, parce qu'il était dans le rayon, il y avait avant dans les librairies, je ne sais pas, quand on allait acheter les magazines, il y avait toujours un rayon avec des trucs de cul. Les journaux de cul sur le côté. Et il y avait ce magazine qui s'appelait Lesbia Magazine, qui n'avait rien de cul, hein, d'abord, mais il y avait surtout des petites annonces, des événements, etc., ce qui faisait la vie lesbienne. Et d'ailleurs, j'en ai interviewé plusieurs qui ont participé. Et il n'y a pas très longtemps, j'étais avec Catherine Gonard, qui est quelqu'un de très important pour les lesbiennes, elle connaît très bien l'histoire, et elle me montrait plein de couvertures de Lesbia. J'ai dit, mais qui a fait cette photo, et en fait des fois elle le sait, mais le jour où elle est plus là, on sait plus qui c'est. Et puis des fois elles ont pas dit leur nom. Par exemple, il y a un festival qui s'appelle Cinéfable, avec du cinéma lesbien. J'ai été marraine de la rétrospective artistique l'année dernière. Quand j'ai demandé la liste, il y avait Christine, peintre, Janine, sculptrice. Et ouais, parce que même dans un milieu, ou alors des pseudonymes, parce que même dans un milieu lesbien, le stigma est là. Et donc, elles ne veulent pas être identifiées. Donc, ça, c'est compliqué. Et donc, moi, Lesbia Magazine, c'est tout numérisé. Et ce que je voudrais, qui est dans la bibliothèque Marguerite Durand, et ce que je voudrais vraiment, c'est arriver à lever de l'argent pour aller interviewer ces photographes que toi, tu connais. Moi, j'ai commencé à rencontrer Catherine, etc., pour qu'elles racontent cette histoire. Parce que c'est des nanas qui ont à peu près 10 ans de plus que moi. Elles ne sont pas éternelles, et si on ne récupère pas cette mémoire, si on ne sécurise pas leurs archives, ça disparaît en fait. Et quand elles racontent, j'en ai rencontré une il n'y a pas longtemps, comment elles faisaient les photos, elles allaient dans des fêtes, c'est une histoire géniale à écrire, mais on n'a pas d'argent pour le faire. Alors le lieu, ça on peut le trouver, on peut se débrouiller, mais on n'a pas d'argent pour le faire. C'est ça un petit peu le problème. Enfin, c'est le gros problème.
Moi, je voulais juste dire merci parce que j'ai compris que j'aimais les filles. En même temps que, à peu près, je pense, la sortie du livre. Donc, ça m'a aidée. Et je voulais savoir, j'avais une question sur les réseaux sociaux et les algorithmes et le queer. Est-ce que là, il y a des problèmes d'invisibilité aussi?
Oui, bien sûr.
Et est-ce que vous vous protégez aussi des regards comment ça marche, en fait? Comment vous présentez votre travail sur Internet?
Mais je ne le présente pas.
Moi, je vous ai trouvé quand même.
Oui, non, mais que vous me trouviez, oui, mais bien sûr. Mais par exemple, quand je faisais la grande commande, les photographes souvent affichaient régulièrement, peut-être tous les 15 jours, une ou deux photos de leur travail en cours, pas moi.
D'accord.
Parce que, par contre, je refuse, par exemple, d'exposer ce travail dans un espace extérieur, qui ne soit pas sécurisé.
D'accord.
Parce que je sais que ça va être abîmé. Alors, ce n'est pas pour le coup de la bâche.
Donc, il n'y aura pas de représentation en galerie ?
Comment ?
En galerie, non ?
Alors, en galerie, ou dans des endroits qui sont sécurisés. Ça, c'est sûr. Je ne le mettrai pas sur les grilles de la mairie du 3e, par exemple. Mais sur les réseaux sociaux, le mot lesbienne est encore... je crois que ça fait baisser je ne sais combien la visibilité d'un poste. Je le constate. Hein. Mais vous n'avez pas dû voir 36 photos de Et l'amour aussi. Hein. Je poste pas. On voit la couverture, mais pas beaucoup d'autres choses. Hein. Donc je fais extrêmement attention. Hein.
D'accord. Bon, moi, je suis un peu nouvelle, hein, c'est pour ça.
Eh bien, bienvenue.
je suis étonnée, en fait, de toutes ces... Enfin, je pensais que... Moi, j'ai vécu à Berlin, hein, donc je pensais que tout ça, c'était dépassé, quoi.
Ah ben oui, mais bon, bienvenue en France. Voilà. Oui, non, ouais. Mais ça, c'est... Oui, oui, on est dans un pays très progressiste, qui se pense très progressiste, mais qui n'est pas tant que ça, en fait.
Oui, c'est ça, en fait, c'est une espèce de surface, quoi.
Oui, oui.
Ah ouais, d'accord. Merci.
Il y a une chose qui, moi, m'a beaucoup bouleversée, que je m'y attendais pas du tout, c'est la réception par des jeunes lesbiennes. Mm-hmm. Alors, je pense que j'avais l'âge idéal pour le faire, parce que, par exemple, si on partait de ce sujet de la manif pour tous, déjà, il fallait l'avoir vécu. Mm-hmm. Les plus jeunes ne l'ont pas vécu, mais c'est surtout qu'à ce moment-là, c'est joué un clivage important entre générationnel, entre des lesbiennes un peu plus âgées qui pensaient que le mariage... Enfin, elles ne se marieraient jamais, comme moi, hein, d'ailleurs. Mmh. Et puis des plus jeunes, etc. Donc, il y avait plusieurs positions à ce moment-là. Et je pense que j'étais à cet endroit-là où je pouvais comprendre vraiment toutes ces positions. Et je les ai bien senties à l'œuvre, hein, pendant ce travail. Qu'une plus jeune lesbienne n'aurait peut-être pas... Elle n'aurait pas été reçue partout, c'est sûr. Donc, la question de mon âge était importante. Ouais. C'est rare hein, quand c'est favorable, donc j'en parle. Et puis, j'ai été très frappée par la réception par des jeunes lesbiennes qui m'ont dit, qui m'ont écrit, alors ça m'a sidéré, mais vraiment beaucoup, en me disant « Merci, on n'avait jamais vu de vieilles lesbiennes. » Alors, comprendre au-dessus de 40 ans, hein, mais enfin, je ne me moque pas, j'aurais fait la même chose, je pense, à leur âge. Mais il y a plein de choses, c'est qu'aussi, on ne marche pas en se tenant la main dans la rue. Rarement. On scanne l'espace public de façon différente. D'ailleurs, Sarah, qui est sur la couverture, vient de passer un doctorat justement sur les lesbiennes dans l'espace public, et c'est passionnant. Mmh. Des choses dont on ne se rend même pas compte. D'ailleurs, si je peux dire quelque chose, j'ai une amie qui est comme toi, donc qui d'un coup elle s'est rendue compte, elle était amoureuse d'une femme, alors d'un coup, bon, hop, la télé est en couleur, tout va bien, c'est tout est génial, en 3D, lumineux, on change de vie, mais simplement elle s'est comportée avec son amoureuse qui était lesbienne elle depuis très longtemps comme une hétéro, c'est-à-dire que dans la rue elle l'embrassait, ma chérie, tout ça, et l'autre était comme ça dans la rue, et un jour elle m'en parle, elle me dit, je crois que ça se passe pas bien. Je dis, je sais pas, raconte-moi. Elle me dit, tu vois, quand on est dans la rue, etc. Je dis, je t'explique. Parce qu'en fait, elle ne se rendait pas compte, parce que les hétéros ont une façon d'être libres, assez libres dans la rue, quand ils sont en couple ou à la télévision, enfin n'importe où. On le voit bien, le modèle hétérosexuel est très promu, et mécaniquement, nous, c'est pas pareil. Donc on est plus méfiante à passer un certain âge. Enfin, même les plus jeunes, elles ne vont pas aller se balader main dans la main et s'embrasser partout. Faut pas rêver. Donc voilà. Donc ce qui m'a rendue heureuse, c'est que ça donnait des images de femmes plus âgées qui sont géniales. Celles qu'elles adorent, c'est ceux de la fin là, avec le mur très coloré. Et c'est des nanas qui m'ont fait pleurer d'émotion tellement elles étaient géniales. Elles sont toutes géniales. Hein,
je voulais juste ajouter que Berlin, effectivement, c'est une ville qui est très queer, mais très queer homosexuel homme. Hein. Enfin, beaucoup plus visible.
Oui, oui, oui. Moi, la première Pride que j'ai vue, je vivais à Berlin. Il y avait encore le mur, hein, je vivais à Falkensteinerstrasse, juste à côté du mur. Et oui, j'ai vu la première Gay Pride là-bas. Enfin, il y avait les armées d'occupation aussi, donc c'était moins rigolo. Ouais. Mais oui, les gays sont toujours beaucoup plus visibles, hein, sont des hommes. Hein. Ouais, ouais. Ils ont d'autres problèmes.
Oui.
Cette visibilité leur cause des soucis.
Bonjour.
Bonjour.
Déjà, merci d'être ici. J'ai deux questions à vous poser. Premièrement, une question un peu pratique. On a eu un diaporama à la fin avec des noms. Est-ce qu'on a moyen de les retrouver quelque part ?
Ben, sur Internet.
Oui, mais je n'ai pas tout retenu.
Alors, c'est enregistré.
Okay.
Et il y a la liste que je dis, mais je ne sais pas comment on peut faire.
Je ne sais pas si pour nous c'est possible de juste faire une publication par exemple avec la liste des artistes qui ont été cités par toi ce soir.
Ça ne fait pas un peu liste
mais pour que,
je ne sais pas, il faut réfléchir.
Pour pouvoir faire en sorte qu'elle, qu'elle soit accessible.
C'est la seule,
sinon
c'est la seule
en tout solution, cas, ouais. Toute la discussion est enregistrée et elle sera sur le site de la BPI à un moment donné. Ça prend quelques temps et on pourra aussi peut-être accompagner le replay de la liste des artistes qui ont été mentionnés aujourd'hui.
Mais c'est pas filmé parce que comme j'ai montré des photos, on peut pas montrer les droits. C'est pas filmé, il y a juste le son.
Ok. Merci.
Bah, de rien.
Et ma deuxième question, je voulais savoir. Comment tu avais travaillé, parce que tu disais que c'était la première fois que tu faisais du portrait,
ouais.
Que tu avais peur.
Ouais.
Et donc, est-ce que tu arrivais déjà avec des idées, ou j'imagine que c'est quelque chose qui se fait à plusieurs, on réfléchit sur place. Et aussi, comment tu faisais pour mettre à l'aise, ou être toi aussi à l'aise, et avoir à la fin ce rendu, parce que j'imagine qu'il y a tout ce travail-là quand on fait du portrait.
Alors, j'avais aucune idée, puisque ça allait se faire sur place. J'étais très détendue. Franchement, c'était assez inconscient hein, comme façon de faire, mais enfin, ça a fonctionné. Non, à chaque fois, je suis partie avec un petit peu de lumière, mais que je n'ai jamais vraiment utilisée. Je ne sais pas pourquoi, beaucoup ont voulu aller dehors. Ça semblait être très important. Quand j'ai eu la commande, j'étais... J'étais transportée, quoi. Donc, c'était. J'aurais pu convaincre n'importe qui. Mais franchement, j'ai vécu la plus belle année de ma vie, je crois. Enfin, pas sur tous les points, mais franchement, ça a été. Tout s'enchaînait. Enfin, c'était dingue. Et j'étais tellement nourrie de. Je me disais, voilà, c'est la chance de ta vie, quoi. On va pouvoir faire quelque chose avec de l'argent pour le faire, parce que c'est ça aussi. C'est que là, on avait 20 000 euros, alors que j'ai claqué rapidement parce que j'ai beaucoup bougé et puis que j'en faisais beaucoup plus que la commande. Mais il y avait de l'argent pour le faire, ce qui était dingue. Et donc, j'aurais pu convaincre n'importe qui. Et c'était pas compliqué. En fait, c'était contagieux. Je pense que. Toutes celles que j'ai pratiquement contactées, même celles qui ont refusé, savaient que c'était le bon moment. Quand je dis dans le texte, nous connaissons notre responsabilité, nous étions complètement responsables de ce que nous faisions. C'est pour ça c'est vrai qu'il y a mon nom sur le livre, mais je n'arrive pas à le penser comme un livre d'auteur. C'est vraiment un. D'ailleurs, il n'y a pas de protocole. On ne les prend pas dans tel format, etc. Il n'y a pas de protocole. À chaque fois, ça change. Et c'est nous, en fait. Mais c'est vrai que cette commande m'a rendue profondément heureuse. Et quand on est heureux, les choses se passent bien, normalement.
Donc, tu n'avais plus peur ?
J'avais plus peur. Du tout.
C'est super.
Ouais.
C'est mieux quand on n'a pas peur.
Voilà.
Merci.
Merci.
Ah, il y a une autre question.
Oui, bonjour. Moi, je voudrais en savoir un peu plus sur la commande, justement, parce que du coup,
C'est appel à 200 photographes. Il y a une exposition là qui est en cours.
Oui.
Et je voulais savoir en fait la suite, parce que du coup vous avez édité 50 portraits. Est-ce qu'il y en a eu plus pour la commande?
Non, dans la commande il n'y avait pas 50 portraits. C'est moi qui en ai
fait
50.
Ah oui, d'accord, hein, ouais. Ok. Donc la commande, ça représente du coup combien de photographies?
Oui.
Et qu'est-ce qu'elles vont devenir? Oui. Parce que du coup, elles établissent une cartographie, si j'ai bien compris. Oui. Mais
on devait rendre 10 photos qui rentrent dans les archives de la BNF, qui sont mises à disposition de la recherche. On doit fournir un reportage plus large numérique qui va servir aussi à la recherche. Et puis normalement, c'est déjà le cas pour plusieurs, des centres d'art, de photographie vont pouvoir faire un peu leur marché, c'est-à-dire dire, ah ben voilà, tel sujet, on va exposer telle personne, etc. Donc c'est comme ça que ça va... C'était vraiment pour soutenir la profession. Donc voilà, ouais. Mais ça, c'est... Enfin, Moi, je trouve que l'exposition est géniale. Tout le monde ne le trouve pas. Mais je trouve qu'il y a une profusion de photos. Enfin, c'est ça que je trouve très excitant. Et puis, pour tout dire, je suis extrêmement fière. La BNF François Mitterrand. Alors, c'est un peu fastidieux. Hein. Il y a 200 photographes avec 2-3 photos chacun, chacune. Mais ouais, je suis très, très fière d'avoir fait ça. D'avoir été sélectionnée. Parce que moi, ma carrière était foutue. Hein. Donc, c'était bien. Il y a un catalogue qui est sorti aussi.
Hein. Ouais, mais justement, comment ça va tourner? Et effectivement, si ça va être bien représentatif justement faire émerger aussi les personnes qui sont plus invisibilisées que d'autres. Moi, j'ai pas encore vu l'exposition à François Mitterrand, mais il me semble que le rôle aussi des institutions, c'est aussi d'aller chercher les personnes invisibilisées et de les rendre plus visibles que celles qu'on voit tout le temps, en fait.
Alors,
donc,
oui.
Du coup, la diffusion me paraît intéressante après à analyser, en fait.
Alors, il y a une chose où je suis particulièrement bien placée pour vous en parler, c'est sur cette grande commande, et puis après, je suis un petit peu fatiguée, si on pouvait arrêter après. Mais sur la grande commande, ce qui est très important, c'est que moi, j'avais filmé dans un... C'est des vidéos en ligne qui s'appellent visuel.art, une sociologue de l'art et du travail, hein, puisque l'art, c'est du travail, qui expliquait que rien ne bouge dans les mondes de l'art sans une politique publique volontariste. Et il se trouve qu'au ministère de la Culture, il y a cette politique volontariste et qui s'est manifestée très largement lors de cette commande. Elle aurait eu lieu 5 ans avant, il n'y aurait pas eu autant de femmes. Parce que, justement, nous, ce qu'on a fait avec notre collectif, c'est de montrer aux femmes ce qui les invisibilisait, aux femmes photographes. Et donc, du coup, là, elles ont candidaté à plus de 30%, et 40% de femmes sont présentes dans la grande commande, et ça se voit. Voilà, ça c'est impressionnant. Et puis également, dans les personnes invisibilisées, il y a les photographes racisés, de classes sociales différentes. Alors ça c'est compliqué, la classe sociale, à identifier, mais en tout cas, les personnes racisées. D'habitude, par exemple, tous ceux qui sont issus de l'immigration nord-africaine, je les connais. À chaque fois qu'il y a un appel à candidature, on dit, si c'est Nejmi, ça sera pas moi, si c'est Boudjelal, c'est pas moi, etc. Là, ils ont tous eu. Toutes et tous eues. Et ça se sent. Et on va sur des sujets que personne ne pourrait traiter et qui font partie de la société française. Donc ça, en cela, cette grande commande, à mon avis, est extrêmement intéressante parce que c'est la première fois qu'on a cette configuration avec cette diversité. Et alors, les hommes n'ont pas été très contents, hein, mais ils y font au fur et à mesure. Enfin, je pense être la photographe qui a été le plus harcelée au moment de la sortie. Hein. Ils m'ont dit que j'étais pas légitime, etc. Mais je m'en fous. Si ce travail, si, comme tu le dis, cette commande devait faire émerger des talents, j'en suis la preuve vivante. J'étais écrasée, je n'existais plus dans la photo. Les gens me connaissaient parce que je militais, mais personne ne connaissait mes photos. Voilà, maintenant, on connaît 50 nanas qui prennent la parole, qui vont par... Enfin, c'est... Voilà, cette grande commande, ça a fait ça aussi. Voilà.
Merci beaucoup, ouais, Marie. Merci. Et merci beaucoup. Et merci beaucoup à Laura aussi. Merci pour votre travail. Merci pour ton temps. Merci à vous d'avoir été là et d'avoir fini par poser des questions. On est vraiment très désolés et vraiment dépités pour Difficult Love. Mais à 20h, Pascal Obolo sera présente pour présenter La Fabrique des Contre-Récits, son film. Donc vous êtes bienvenus à 20h. Et sinon, tout le long du cycle, jusqu'au 4 juillet. Encore un grand merci.